Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 26 janvier 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale examine une motion de censure du Premier ministre, proche de l'ancien président Joseph Kabila. En Ouganda, l'armée a mis fin à l'assignation à résidence de l'opposant Bobi Wine. Au Mali, la première visite d'une délégation du gouvernement de transition à Kidal a été écourtée. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a limogé les quatre chefs militaires du pays pendant une dégradation de la situation sécuritaire. Ici aux États-Unis, des changements radicaux sont en cours au Pentagone, moins d'une semaine après le début de la présidence de Joe Biden. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a commencé l'examen d'une motion de censure du Premier ministre issu de la coalition pro-Kabila. On fait le point avec Eddy Issango.
Le bureau provisoire Guy Bureau d'âge a pu obtenir les reports à demain de l'examen de cette motion. La raison évoquée, l'absence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba en mission à Lubumbashi. Les députés devront attendre son retour prévu pour demain mercredi à 11h. Les députés du Front commun pour le Congo, fidèles à l'ancien président Joseph Kabila, ont même quitté la salle suite au refus du président de la séance de leur accorder la parole. Ils avaient eux aussi préparé une motion pour faire tomber le bureau d'âge malgré l'opposition de la Cour constitutionnelle. Dans une note laissée avant son départ, le Premier ministre explique qu'il devait se référer à l'ancien président Joseph Kabila qui a proposé sa nomination comme chef du gouvernement avant toute décision.
En Ouganda, l'armée s'est retirée mardi des abords de la maison de l'opposant Bobi Wine au lendemain d'une décision de justice qui ordonnait la fin de son assignation à résidence. Abdourahman Dia.
Après le retrait des soldats des abords de sa résidence, Bobi Wine a pu rencontrer pour la première fois depuis les élections des parlementaires nouvellement élus sous la bannière de son parti, la plateforme d'unité nationale. J'ai subi une détention illégale dans ma propre maison parce que le général Museveni n'a pas gagné, a-t-il déclaré à ses élus ainsi qu'à des supporters et des journalistes réunis dans son jardin. Il a accusé Museveni d'avoir accompli un coup d'État contre la volonté du peuple d'Ouganda. Le président sortant a remporté le scrutin avec 58,6% des voix selon les résultats officiels. Bobi Wine, crédité d'environ 35%, les a rejetés. Depuis 11 jours, des soldats et des policiers lourdement armés entouraient la maison, empêchant ses habitants, dont l'épouse de M. Wine, d'en sortir. Ils ne pouvaient pas non plus recevoir de visiteurs. Lundi, les forces armées n'avaient pas bougé, malgré une décision de justice qualifiant le même jour cette assignation d'illégale. Le gouvernement avait justifié cette assignation à résidence par la nécessité d'assurer la sécurité de Bobi Wine et d'éviter les manifestations de l'opposition.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé le remplacement des quatre principaux chefs militaires après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire. Le chef de l'État, ancien général dans les années 1980, qui a accédé au pouvoir par les urnes en 2015, a accepté la démission immédiate des chefs de l'armée de terre, de l'air, de la marine et du chef d'état-major, et aussi nommé leur remplaçant. Un tribunal nigérian a acquitté quatre des six manifestants arrêtés en novembre dernier pour rassemblement illégal lors d'une protestation devant l'Assemblée nationale d'Abuja. Les deux autres manifestants étaient absents du tribunal pour cause de maladie. Leur cas a été ajourné au 24 mars. Selon Amnesty International, au moins 56 personnes ont été tuées pendant ces manifs en octobre. Au Mali, initialement prévu pour 48 heures, la visite d'une délégation du gouvernement de transition à Kidal a finalement été écourtée. Mais avant leur retour sur Bamako, les six ministres se sont entretenus avec des membres de la coalition des mouvements de la ZAWAD et de la MINUSMA et ont mené quelques activités à Gao. Les précisions de Kassim Traoré.
Parti pour une réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger qui a été reportée à la demande de la partie algérienne, la délégation ministérielle a écourté sa visite à Kidal. Selon un ministre de la délégation, c'était une visite symbolique d'une journée, mais qui a permis de faire avancer le processus de paix. Le même ministre ajoute que lors des entretiens avec les membres de la CMA, tout le monde a été d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Avant de conclure que la pose d'une pierre pour la maison des jeunes de Kidal est une preuve que la jeunesse locale fait partie de leurs préoccupations. La délégation a rendu visite à Kidal à un détachement de l'armée malienne reconstituée qui est stationné dans le camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal. La sécurité de la délégation lors de ce déplacement à Kidal a été assurée du début jusqu'à la fin par la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. La visite des ministres dans le nord s'est poursuivie à Gao ce matin. Il a été question de parler avec les autorités locales de sécurité et de lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Réconciliation avait, dès son arrivée dans la cité des Askia, entamé des pourparlers avec les différentes communautés pour faire avancer le processus de paix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le sommet sur la situation au Sahel qui réunira la France et ses partenaires du G5 Sahel se tiendra les 15 et 16 février en N'Djamena. Il sera question de faire le point sur la situation sécuritaire face aux groupes djihadistes, un possible redimensionnement de la force française Barkhane et l'aspect politique de la crise régionale sont également au programme. Les députés tunisiens s'expriment ce mardi sur un large remaniement qui met en lumière les tensions politiques entre le président de la République et le Parlement. Une nouvelle manifestation est prévue contre la répression policière. Cette session parlementaire intervient également au lendemain des troubles entre des protestataires et la police à Sbeldla, dans une région marginalisée du centre du pays, après le décès d'un jeune blessé la semaine dernière. L'île Maurice a débuté ce mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Cette île de l'océan Indien compte sur le vaccin pour relancer son secteur touristique durement touché par la pandémie. Selon le ministre de la Santé, la campagne visera dans un premier temps tout le personnel médical et celui affecté à l'aéroport pour l'accueil des passagers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie et l'Iran veulent sauver l'accord sur le nucléaire iranien, ont annoncé ce mardi les chefs de la diplomatie de ces pays. L'accord que veut réactiver le nouveau président Joe Biden, qui pose néanmoins des conditions. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Joe Biden dit vouloir amener les États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien, mais demande au préalable que l'Iran cesse ses activités d'enrichissement d'uranium et respecte ses engagements. Téhéran demande de son côté la levée des sanctions et le respect par Washington de ses obligations. Une position partagée par la Russie ce mardi qui pense que l'administration de Biden devrait revenir à l'accord pour qu'il soit respecté par l'Iran. Nous, comme l'Iran, souhaitons un retour à sa mise en œuvre pleine et entière, a assuré le ministre russe Sergei Lavrov en présence de son homologue iranien Mohammad Javad Zarif en visite à Moscou. L'Iran reviendra à la mise en œuvre totale de ses obligations une fois les sanctions américaines levées, a confirmé le ministre iranien. La France, un autre signataire de l'accord, a pris le contre-pied des Russes, jugeant que si les Iraniens veulent un réengagement américain, ils doivent cesser toute provocation et revenir à leurs obligations.
Le Sénat des États-Unis a confirmé ce mardi la nomination d'Anthony Blinken comme chef de la diplomatie américaine, 6 jours après l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le nouveau secrétaire d'État a dépassé la majorité des 51 sénateurs nécessaires, y compris avec de nombreuses voix républicaines. Le premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mardi qu'il assumait la pleine responsabilité de l'action de son gouvernement au moment où le Royaume-Uni a dépassé les 100 000 morts du coronavirus, bilan le plus lourd d'Europe. Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le COVID-19 et devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici fin 2021. Sanofi travaille sur deux vaccins, mais son principal projet a pris du retard et ne devrait pas arriver sur le marché avant la fin de l'année. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à l'Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nalit Talani.
L'économie du Libéria devrait croître de 3,2% cette année après une chute de 3% l'an dernier due au coronavirus. Le président George Weah souligne que la reprise sera tributaire d'une croissance attendue dans tous les principaux secteurs et dépendra de la persistance ou non du COVID-19. Il promet de créer des emplois pour les pauvres et de réinitialiser les fondements de la politique monétaire pour remédier aux pénuries de liquidités. Le gouvernement de Biden appelle au rétablissement des sanctions américaines qui pèsent depuis 2017 sur Dan Jettler, accusé de corruption en RDC et que l'administration de Trump avait assoupli. Lundi, deux ONG américaines ont exhorté Joe Biden de les rétablir. Le milliardaire israélien Dan Jettler est soupçonné d'avoir signé des contrats miniers et pétroliers opaques et entachés de corruption qui ont fait perdre à la RDC 1,36 milliard de dollars de recettes fiscales sous le règne de Kabila. Pour terminer, le Kenyan Mansour Mohamed Sourou, 60 ans, a été extradé vers les États-Unis lundi pour répondre des accusations de braconnage d'au moins 35 rhinocéros et de plus de 100 éléphants. Il est notamment accusé de trafic de faune sauvage et d'héroïne et de blanchiment d'argent. Ses trois complices et lui sont accusés d'avoir vendu à plus de 7 millions de dollars quelques 10 tonnes d'ivoire et 180 kilos de cornes de rhinocéros à des acheteurs vivant aux États-Unis et en Asie entre 2012 et 2019. Il risque jusqu'à la prison à perpétuité.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Les premières affiches des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations sont connues. Après les victoires des deux Congo hier sur la Libye et le Niger, les Diables Rouges joueront le Mali et la RDC croise le chemin du pays hôte, le Cameroun. De Yaoundé, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
Les Léopards de la RDC s'invitent en quart de finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations avec les statuts de leader du groupe B après leur victoire 2-1 sur le Niger. Objectif atteint, confie Pamphile Miayo, sélectionneur adjoint de l'RDC, aux commandes de Léopard, à l'absence de Ibengue, testé positif à la COVID-19.
L'objectif premier était de se qualifier pour passer à l'étape suivante, et voilà, c'est ce qui a été réalisé.
En quart de finale, les Léopards feront face aux Lions Indomptables du Cameroun, pas facile à jouer avec leur statut de pays hôte, malgré qu'ils ont fini deuxième du groupe A derrière les Mali, un adversaire qu'il faut jouer à fond, explique Darka Bangou, qui a ouvert son compteur but face au Niger.
On sera face à eux, on va se battre, on va se donner à fond parce que nous savons que c'est un match qui ne sera, sera pas facile.
Avec cette qualification, Joël Béa, attaquant du tout-puissant Gleber Mazembe, espère que la RDC va récupérer ses joueurs frappés de Covid-19.
C'est vrai qu'il y a eu quelques forfaits avec le cas de Covid, mais qui reviendront certainement parmi nous bientôt.
Pour ce premier tour, la RDC termine cette phase avec un total de 4 buts marqués, contre 2 encaissés, 2 victoires et 1 nul. 7 points sur les 9 possibles. Yaoundé, Valdo Simo Yamba pour VOA Afrique.
Les deux premiers quarts de finale Congo, Mali et RDC Libye se joueront donc samedi. Le groupe C désira se qualifier pour les quarts ce soir. Le leader de la poule, le Maroc, qui compte 4 points, joue le dernier, l'Ouganda, qui n'a qu'une seule unité à son compteur. Le Togo, deuxième avec 3 points, fait face au Rwanda. Ici, en NBA, de retour à Cleveland, LeBron James a été énorme lors de la victoire 115-108 des Lakers contre les Cavaliers. King James a fini avec 46 unités, 8 rebonds et 6 passes décisives. Les Brooklyn Nets ont fait craquer le Heat de Miami 98-85. Face à Denver, le prodige slovène Luka Doncic de Dallas a réussi un impressionnant triple-double, 35 points, 16 passes décisives et 11 rebonds, son 6e de la saison. Mais ce sont les Nuggets qui ont eu le dernier mot sur les Mavericks, 117-113. Golden State a battu Minnesota 130-108 grâce notamment aux 36 points de Stephen Curry. Les Pacers se sont imposés 129-114 aux dépens des Toronto Raptors. Les Pistons ont surpris les Sixers 119-104 en l'absence du Camerounais Joel Embiid. Le Magic a écarté les Hornets 117-108. Le responsable des finances de la Floride a écrit une lettre au Comité international olympique pour lui dire que son État est prêt à accueillir les Jeux olympiques si Tokyo venait à renoncer à les organiser cet été. Vendredi dernier, le premier ministre japonais a balayé les rumeurs selon lesquelles son gouvernement aurait secrètement renoncé à organiser les JO prévus du 23 juillet au 8 août prochain.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Guinée, la coalition tournant la page s'est dit satisfaite de la condamnation de Benny Stenmetz à 5 ans de prison et à une amende de 50 millions de francs suisses. Il a été déclaré coupable de corruption d'agents publics en Guinée après avoir versé des millions de dollars de pots de vin à des responsables guinéens pour obtenir des permis d'exploitation du gisement de fer de Simandou au profit de sa société Benny Stenmetz Group Resources. Yacouba Ouidraogo a joint Ibrahima Diallo, coordonnateur de la coalition Tournons la page Guinée.
Pour nous, cette décision est salutaire parce qu'elle est sans précédent. Et c'est un signal fort également dans la lutte contre la corruption dans la mine. Vous savez, la Guinée est l'un des pays les plus pauvres de la planète, alors que le pays dispose des plus importants gisements de minerais, de fer et de bauxite dans le monde.
On sait que cette affaire remonte au début des années 2000. Qui sont les personnes véritablement impliquées dans ces actes de corruption? Qui a reçu les pots de vin?
Dans ce dossier spécifiquement, vous avez vu, c'est la quatrième épouse du général Lansana Conté qui a reçu, n'est-ce pas, une partie des pots de vin. Il y a d'autres cas également de l'ancien régime qui en ont bénéficié. Le concerné dans ce dossier a tout fait pour pouvoir obtenir très rapidement la concession de Simandou. C'est une pratique qui a toujours existé dans notre pays et qui existe même aujourd'hui. Mais fort malheureusement, la justice guinéenne est menée par la corruption et les hommes le plus souvent qui sont concernés par ces différents dossiers sont puissants et ils sont aux affaires. Donc ils ont le contrôle de l'appareil judiciaire, ce qui fait qu'ils échappent souvent à la justice nationale.
Justement, vous avez déposé, quand je dis vous, je parle de la coalition Tournons la page Guinée, a déposé une plainte en 2020 au parquet financier de Paris pour corruption dans le dossier de la AMR. De quoi s'agit-il concrètement?
L'AMR, c'est une société écran, nous l'appelons comme ça, société écran, qui est dans les mines de bauxite dans la région de Boké. Cette société s'est enrichie de façon illégale, alors que la société n'avait même pas un capital. À la création de la société, n'avait même pas un capital d'un million de dollars. C'était vraiment une complicité avec aujourd'hui des ministres et des hauts cadres à la présidence de la République.
Quand vous dites ministres et hauts cadres à la présidence de la République, est-ce que vous avez des noms?
Oui, bien sûr, mais puisque l'instruction est secrète, je ne pourrais pas vous révéler les noms de mise en cause parce que justement, nous avons saisi un cabinet d'avocats qui à son tour a formulé la plainte et a déposé au parquet financier de Paris. Au moins, le cabinet d'avocats pourrait faire une communication large et même éventuellement donner les noms des personnes concernées.
La justice suisse a condamné Benny Stenmetz. Est-ce que vous pensez que ça va être un début d'espoir pour vous dans ce dossier que vous avez déposé au niveau du parquet financier de Paris?
Bien sûr, c'est un début d'espoir pour nous parce que nous avons raison d'avoir espoir que la justice française également pourrait s'inspirer de la justice suisse pour que la justice soit rendue dans cet autre dossier de corruption.
Ibrahima Diallo, coordonnateur de la coalition Tournons la page, joint à Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Séguéry, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Le président américain Joe Biden a annulé les restrictions de voyage imposées par son prédécesseur à certains pays musulmans et africains. Le Nigeria faisait partie des pays touchés par ces restrictions imposées en 2017 par l'administration Trump pour raisons sécuritaires. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
Joseph Abba, un habitant d'Abuja, souhaitait passer une lune de miel avec son épouse aux États-Unis après leur mariage en 2018. Il avait préparé tous les documents et demandé un visa qui lui a été refusé, bien qu'il remplissait les conditions.
As an applicant, the pain of being refused, even when you know you're qualified, is something else.
En tant que candidat, la douleur d'être refusé, même lorsque vous savez que vous êtes qualifié, c'est quelque chose. Le fait de connaître cette décision avant même d'aller à l'entretien, c'est un découragement pour le candidat.
Depuis l'interdiction, voyager entre le Nigeria et les États-Unis est devenu presque impossible. L'administration Trump avait mis en avant la menace terroriste, affirmant que les pays figurant sur la liste ne répondaient pas aux normes de sécurité minimale. Donald Trump avait été critiqué au début de son mandat pour ses commentaires sur certains pays africains. Joseph Abba dit douter que les problèmes de sécurité soient la cause d'une telle interdiction.
Le Nigeria n'est pas le seul pays au monde à avoir un problème de sécurité. L'insécurité est comme la pandémie, c'est un fléau mondial.
Lors de son premier jour à la Maison-Blanche, Joe Biden a signé 17 décrets, dont un annulant les restrictions de voyage. Les chefs d'entreprise nigérians comme Charles Taiwo, qui dirige une agence de voyage à Abuja, ont salué cette décision.
C'est un grand soulagement pour les entrepreneurs comme moi, en particulier dans l'industrie du voyage, qui peuvent finalement entrevoir de nombreuses opportunités et aussi commencer à profiter des avantages de l'afflux entre le Nigeria et l'Amérique.
Grâce à la reprise des voyages entre le Nigeria et les États-Unis, les potentiels touristes internationaux comme Joseph Abba disent qu'ils visiteront l'Amérique, ce qui permettra aux agences de voyage d'augmenter leurs revenus, entre autres avantages économiques, pour le pays le plus peuplé d'Afrique, avec ses quelque 200 millions d'habitants.
Moins d'une semaine après le début de la présidence de Joe Biden, des changements radicaux sont en cours au Pentagone. Le nouveau président américain et le tout nouveau secrétaire à la défense, Lloyd Austin, cherchent à annuler les changements imposés par l'ancien président Donald Trump. Jeff Seldin, correspondant de la VOA au Pentagone, nous en dit plus. Le récit est de Lionel Gaïma.
Flanqué de plusieurs hauts gradés de l'armée, le président Joe Biden, d'un trait de plume, a annulé l'une des politiques les plus controversées de son prédécesseur, l'interdiction des personnes transgenres de servir dans l'armée.
Ce que je fais, c'est permettre à tous les Américains qualifiés de servir le pays en uniforme.
Sur Twitter, le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a salué cette décision, la qualifiant non seulement de bonne chose, mais aussi la seule chose intelligente à faire. Le décret signé lundi n'est que la dernière mesure prise par la nouvelle administration pour aider l'armée américaine à changer de cap. C'est-à-dire tenir une promesse que le futur secrétaire à la défense a faite aux législateurs pendant son audience de confirmation une semaine plus tôt.
Nous devons aussi à nos employés un environnement exempt de discrimination, de haine et de harcèlement. Et si je suis confirmé, je me battrai dur pour éradiquer les agressions sexuelles et débarrasser de nos rangs les racistes et extrémistes.
Lloyd Austin a déjà publié une note demandant une action contre les agressions sexuelles. Mais faire face aux problèmes croissants de l'extrémisme, comme en témoigne le nombre d'anciens militaires qui ont pris part au siège du Capitole le 6 janvier, sera peut-être plus difficile. Colin Clark, directeur de politique et de la recherche au groupe Soufan, spécialisé dans les questions de sécurité basé à New York.
Nous devons aller au-delà du dépistage des individus portant des tatouages néo-nazis. Ça doit être bien plus que ça. Il faut être plus conscient de ce que font les nouvelles recrues et des membres toujours actifs dans les services en ligne.
Austin sera également confronté à d'autres défis. Il a promis d'aider les États-Unis à répondre à la pandémie de coronavirus. Il a également contacté des alliés proches alors que les choix critiques se profilent sur le marché à suivre en Irak et en Afghanistan où le nombre de soldats américains est tombé à des niveaux les plus bas depuis des années. Et en Afrique où la présence militaire américaine a également diminué. Il y a aussi des tensions accrues avec la Russie, les préoccupations avec la Corée du Nord, l'Iran et puis il y a la Chine. Écoutons Bradley Bowman de la Fondation de la Défense des Démocraties.
Je mettrais la Chine en premier. Je vois la Chine comme une menace. Dans certains cas, et le peuple américain et nos amis du monde entier doivent le savoir, les Chinois ont mis en place des systèmes qui sont aussi bons ou meilleurs que les nôtres.
La liste de choses à faire est donc très longue pour le nouveau secrétaire américain de la Défense, qui est aussi le premier noir à la tête du Pentagone.
C'est la fin de ce journal à la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joseph Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les trafiquants d'héroïne et de cocaïne d'Asie et d'Amérique du Sud profitent des infrastructures limitées de l'Afrique subsaharienne qui permettent aux stupéfiants de passer les frontières sans être détectés. Plus de cocaïne a été saisie en Guinée-Bissau et au Cap-Vert au cours des trois premiers mois de 2019 que le total saisi sur l'ensemble du continent africain entre 2013 et 2016. Le gouvernement américain contribue à lutter contre cette menace croissante par des dons d'équipements tactiques et d'autres technologies aux forces de sécurité et aux forces de l'ordre au Libéria. Récemment, l'Agence libérienne de lutte contre la drogue, la LDA, a reçu des uniformes, des bottes, des menottes, des ordinateurs portables, des imprimantes et d'autres fournitures pour aider à lutter contre les trafiquants de drogue. Le gouvernement américain est partenaire de la LDA depuis tant d'années maintenant, a déclaré Stephen H. Kissick, directeur par intérim de la section des affaires internationales des stupéfiants et de la sécurité à l'ambassade des États-Unis au Libéria. Dans une interview accordée au journal libérien Front Page Africa, il a noté que les États-Unis sont impatients de poursuivre le travail avec la LDA et le gouvernement libérien à l'avenir. Le Kenya, le Ghana et un certain nombre d'autres pays africains s'associent également aux États-Unis pour lutter contre le trafic de drogue et les problèmes qui en découlent. Heather Merritt, ancienne sous-secrétaire d'État adjointe du Bureau des stupéfiants internationaux et des affaires de sécurité, a récemment déclaré que les États-Unis sont profondément investis dans la lutte de l'Afrique contre le trafic de drogue et espèrent favoriser une plus grande coopération avec les gouvernements démocratiques africains. Il est dans l'intérêt des États-Unis de s'associer pour contrer ces organisations de trafiquants de drogue et d'autres criminels parce que nous nous soucions d'avoir un ensemble sûr, prospère et démocratique des pays d'Afrique avec lesquels nous pouvons nous associer, a-t-elle déclaré. Nous voulons avoir des flux commerciaux, nous voulons avoir des liens de personne à personne et nous sommes meilleurs quand nous avons des partenaires forts et compétents de l'autre côté. Lorsque les pays sont exploités par des organisations criminelles liées à la drogue, la violence et la corruption qui s'ensuivent peuvent saper les gouvernements légitimes et mettre la population en danger. En aidant les gouvernements africains à prendre de l'avance sur ce problème de trafic de drogue, les États-Unis espèrent que cela peut également contribuer à limiter la corruption et d'autres activités criminelles. Par l'intermédiaire de nos ambassades sur le continent, a déclaré l'ancienne sous-secrétaire John Merritt, l'INL travaille avec des pays de toute l'Afrique en partenariat avec les gouvernements pour développer la capacité de leur entité du secteur de la justice pénale.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.